Radio Okapi.
Le journal Bibi Mukonkoli.
Okapi.
Au Nord Kivu, démission du ministre provincial de la justice depuis hier samedi. François Rouchogoza, qui est issu du parti CNDP, affirme avoir agir aux instructions de son parti. À l'Équateur, le barrage hydroélectrique de Mobimbongo sera bientôt opérationnel. C'est ce qu'annonce le directeur provincial de la SNEL. Il appelle les abonnés d'honorer leurs anciennes factures de consommation du courant électrique. Le reportage du week-end ce midi nous emmène à Kisangani, où la MONUSCO a procédé à la remise des dons aux détenus de la prison de Kisangani, et ce dans le cadre de la clôture des activités marquant la journée internationale des casques bleus. Madame, Monsieur, bonjour, merci de suivre ce journal. Commençons par le Nord Kivu. Les membres du Congrès national pour la défense du peuple CNDP annoncent qu'ils quittent la majorité présidentielle. Ce départ de la majorité est accompagné de la démission du ministre provincial de la justice et réinsertion. Ce dernier quitte le gouvernement provincial avec les membres de son cabinet issus du CNDP. Le gouvernement provincial indique qu'il n'a pas encore été officiellement saisi de cette démission. Rosalie Zawadi nous donne les détails.
Selon le ministre provincial de la justice issu du CNDP, François Rouchogoza, cette décision a été prise à l'issue d'une réunion du bureau politique de ses partis hier à Goma. Joint au téléphone, il indique que le CNDP entend à travers cette décision faire une pression auprès du gouvernement pour restaurer la paix en province.
La fois passée, il y a eu commencement de l'hostilité au niveau du Nord Kivu. Pendant nous avons initié plus de 4 communiqués au gouvernement congolais pour que les autorités cessent. Et pratiquement, le gouvernement a répondu par le négatif. C'est pourquoi la direction politique du CNDP a décidé que je quitte le gouvernement.
Tout en niant l'assertion selon laquelle le CNDP quitte la majorité présidentielle pour rejoindre les mouvements du 23 mars, François Rouchogoza explique que son parti exige du gouvernement congolais le respect des accords du 23 mars qui prévoyaient notamment l'intégration de la police de l'ex-groupe armé CNDP, l'intégration politique de ses cadres civils ainsi que le retour des réfugiés congolais qui vivent au Rwanda et en Ouganda. Cependant, le président national du CNDP, le sénateur Mwanga Tchutchu, dit ne pas être au courant de cette décision. Le gouverneur de province, pour sa part, dit attendre d'être officiellement saisi par le CNDP pour pouvoir réagir. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Parlons de la situation sécuritaire, les 8 personnes enlevées vendredi par les FDLR dans la localité de Karembou, dans le territoire de Walungu, sont de retour dans leur village, cela après avoir été copieusement tabassés par leurs ravisseurs. Ils sont arrivés dans leur village dans la nuit du samedi à ce dimanche. Selon le témoignage d'un des otages cité par la société civile de Walungu, ils ont réussi à s'enfuir pendant que les FDLR se disputaient sur le sort à réserver à ces otages. Pour rappel, ces personnes ont été enlevées lors de l'attaque de la localité de Karembou qui a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi. À Kalemie, l'assistance des acteurs humanitaires aux déplacés de Manono ne va plus tarder. Le chef du bureau du HCR vient ainsi de s'exprimer au bout des opérations de profilage dans le secteur de Manono au Katanga. Manono est situé à 450 km au sud-est de Kalemie, compte un nombre important de déplacés fuyant l'insécurité causée par la présence d'hommes en armes du groupe de Gédéon. Des précisions avec François-Xavier Mibé.
11 695 personnes, soit 3 700 ménages. C'est le nombre de déplacés identifiés à la fin des opérations de profilage dans les secteurs de Mpiana et Kaongo au territoire des Manono. Les acteurs humanitaires basés à Kalemie ont déployé 33 profileurs pour réaliser pendant 2 semaines un travail de terrain. D'après les résultats de cette enquête, les personnes déplacées, tout comme les familles autochtones d'accueil, vivent dans des conditions qui nécessitent une assistance humanitaire d'urgence. Les acteurs humanitaires, en l'occurrence le PAM, l'UNICEF, SRS et d'autres encore, se mobilisent à apporter, chacun en ce qui les concerne, l'appui selon les domaines de son intervention. Le PAM envisage dans un futur immédiat d'établir un pont aérien entre Kalemie et Manono pour apporter des vivres. Le budget du PAM approuvé à cet effet à Lubumbashi prévoit 3 mois d'assistance en vivres. Le chef de bureau du HCR en tête de Kalemie, Nicolas Miatlovitch, indique que les autres acteurs s'activent à présent à répondre aux besoins urgents des déplacés en non-vivres comme des casseroles, bâches et couvertures. Kalemi François-Xavier Mibé, Radio Kapi.
Le barrage hydroélectrique de Mobimbongo à l'équateur bientôt opérationnel. Le dépannage de la centrale est sur le point de s'achever après quelques semaines des travaux. À cet effet, le directeur provincial de la SNEL lance un appel aux abonnés de Badolité, Mobimbongo et Mobimbanga à honorer leurs anciennes factures de consommation pour permettre à sa société de supporter les charges d'exploitation. Denis Tukuzu rappelle que ce barrage a coûté plus de 25 millions de dollars à l'État congolais. Le directeur provincial de la SNEL Équateur est au micro de Béatrice Nabindi.
Dans peu de temps, si tout va bien, on va reprendre l'exploitation, qu'ils fatiguent à leur devoir d'honorer leurs factures de consommation. À cesser aussi des actes de vandalisme sur les installations. Mais du côté du gouvernement, je voulais juste dire que avoir de l'énergie électrique, c'est déjà un des acteurs de développement. Il faudrait que nos gouvernants fassent le nécessaire. Dado a un aéroport international, Dado a de l'énergie électrique, et par la relance des industries agroalimentaires qui se trouvent à Bado, Bulerie et ainsi de suite, on peut créer et pourquoi pas faire de Bado une zone franche pour attirer les investisseurs et lui relancer les usines. Si on a construit même des usines, à ce moment, le barrage là va devenir un cas.
Parlons enseignement à présent. L'Institut supérieur du développement rural de Bukavu, doté depuis hier du programme du troisième cycle en développement. L'objectif est de former les chercheurs en développement et préparer la relève des professeurs de l'ISDR Bukavu, dont la moyenne d'âge varie entre 60 et 65 ans. Selon le directeur général de cette institution, ce programme va servir également tous les autres instituts supérieurs de développement à travers la RDC et en Afrique centrale. Des détails avec Astrid Mujinga.
Ce programme du troisième cycle qui est lancé ce samedi avec FAST à l'ISDR Bukavu a deux options, à savoir la section socio-économie et planification du développement rural et la section technologie et gestion des ressources naturelles. Selon le directeur général de l'ISDR Bukavu, le professeur Issoum Bicho, ce programme va permettre l'augmentation du nombre de professeurs de cette institution, car elle n'a pour le moment que 10 professeurs attitrés pour 3000 étudiants, ce qui fait un professeur pour 300 étudiants, et ce sont ces mêmes professeurs formés dans ce programme qui pourront assurer les cours dans d'autres ISDR du pays, dans presque chaque territoire de cette province du Sud Kivu à vocation agricole. Signalons enfin que c'est l'ISDR Bukavu seulement qui est autorisé à organiser ce troisième cycle pour les institutions de développement. Bukavu, Astrid Mujinga, Radio Okapi.
4 morts et 3 blessés grièvement, c'est le bilan d'un accident de circulation survenu ce dimanche 30 juin matin à Kinshasa sur le boulevard Lumumba à Limité, à la hauteur de la 12e rue. Ces victimes toutes faisaient le footing sur la chaussée avant d'être renversées par une Jeep de marque Toyota Surf. Selon la police spéciale de roulage, le conducteur de cette Jeep était dans un état d'ivresse très avancé. La Jeep accidentée a été aussitôt mise à feu par des passants. Rendons-nous à présent à Kisangani. Clôture hier des activités marquant la journée internationale des casques bleus, célébrée chaque 29 mai de l'année depuis 2002. Ces manifestations organisées par la MONUSCO Kisangani ont eu lieu dans la prison de Kisangani. L'unité pénitentiaire de la MONUSCO a remis de dents aux détenus à cette occasion. Notons qu'un match de football a également été organisé au sein même de la prison. Vivons cette ambiance avec Aliana Alipanagama dans ce reportage.
La joie a été au zénith, comme on pouvait le remarquer auprès de ces 726 détenus. C'est une première, se sont-ils exclamés. Cela prouve qu'ils ne sont pas du tout oubliés du reste du monde, même s'ils sont privés de liberté. Le chef des bureaux de la MONUSCO Kisangani l'a exprimé, Elder de Barros.
Nous avons pensé qu'il fallait, au niveau de Kisangani, inclure aussi des événements ici à la prison centrale. Cet endroit vise la correction de ceux qui, dans leur vie, sont comportés incorrectement, mais ils ne sont pas exclus de la société.
L'unité pénitentiaire de la Monisco Kisangani a remis à ses détenus un don de 30 matelas, de l'eau pure, des boissons sucrées et des ballons. Un tournoi de football à 7 a opposé des équipes de détenus au sein même de la prison centrale, suivi de la remise du trophée. Les détenus ont exprimé leur vœu de voir organiser régulièrement des activités récréatives au sein de la maison carcérale. L'un d'eux a requis l'anonymat.
Je suis très content de ce que la Monisco a organisé. Que le gouvernement congolais fasse régulièrement autant pour jouer positivement sur la psychologie des jeunes détenus ici.
Jouer la psychologie à Ban, pas à la tranquille dans la prison.
Ali Alali Panagama, Radio Kapi, Kisangani.
Ce journal est terminé. Merci pour votre fidélité.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.